Bonjour, je m'appelle Bayless Conley. Dans la vie, nous sommes tous confrontés à l'incertitude, qu'il s'agisse de problèmes financiers, de difficultés relationnelles, d'une crise de santé ou de la recherche d'un but, une chose est sûre, Dieu vous voit, il vous aime. Et quelle que soit la situation à laquelle vous êtes confronté, il a les réponses. Bonjour mes amis, merci de vous joindre à moi. J'ai un message intéressant à partager avec vous aujourd'hui. Je veux vous parler, du moins nous allons commencer, nous ne terminerons pas aujourd'hui, mais nous allons commencer à parler de quatre choses que Dieu veut que nous élevions. Quatre choses au sujet desquelles Dieu a dit, dans l'Écriture, il faut les élever. La première chose qu'il veut que nous élevions, c'est notre voix. Il veut que nous élevions nos voix. Il y a trois domaines dans lesquels Dieu veut que nous élevions nos voix. Premièrement, il veut que nous élevions notre voix dans l'adoration, et en particulier dans le chant. Écoutez ces versets. Il s'agit de 2 Chroniques, chapitre 5, versets 13 à 14. Oui, il s'agit de l'Ancienne Alliance. Mais sous la Nouvelle Alliance, nous avons encore plus de raisons d'être reconnaissants. Nous avons encore plus de raisons d'adorer Dieu. La Bible dit que la gloire de la Nouvelle Alliance surpasse la gloire de l'Ancienne Alliance. Les bénédictions de la Nouvelle Alliance surpassent les bénédictions de l'Ancienne Alliance. Nous avons une meilleure alliance fondée sur de meilleures promesses, dit le livre des Hébreux. Ceci se passe donc dans le cadre de l'Ancienne Alliance. Je vais lire à partir du verset 13. Il est écrit, « Tous ensemble, les joueurs de trompettes et les autres musiciens se firent entendre à l'unisson. » Remarquez qu'ils cherchent à se faire entendre. Il ne s'agit pas d'une simple louange silencieuse dans le cœur des gens. « Se firent entendre à l'unisson pour acclamer et louer le Seigneur. » Lorsque s'éleva ce chant, ils cherchent à faire entendre l'acclamation et la louange. Lorsque s'éleva ce chant accompagné par les trompettes, les cymbales et les autres instruments, acclamez le Seigneur car il est bon et son amour n'a pas de fin. Un nuage remplit le temple, la maison du Seigneur. Les prêtres ne purent pas reprendre leur service à cause de ce nuage, car c'était la glorieuse présence du Seigneur qui remplissait le temple. Là encore, la gloire du Nouveau Testament surpasse celle de l'Ancien Testament. Mes amis, nous avons une meilleure alliance établie sur de meilleures promesses, donc ils sont là, ils ne font qu'un. Ils sont unis pour louer et remercier le Seigneur. Ils ne pensent pas au dîner, ils ne pensent pas au loyer à payer, ils ne pensent pas à cette paire de sandales qu'ils veulent acheter. Ils ne sont pas distraits, ils ne font qu'un. Ils se sont unis. Ils ont élevé leur voix et la présence de Dieu est venue dans le temple où ils se trouvaient. À tel point que le prêtre ne pouvait plus continuer son ministère. Il ne pouvait que se prosterner devant le Seigneur. Vous allez peut-être dire, « Eh bien moi, je loue dans mon cœur. » C'est une bonne chose. Mais je me demande si cette louange est vraiment réelle, si elle n'arrive pas jusqu'à vos lèvres. Jésus a dit, « En effet, la bouche exprime ce dont le cœur est plein. » Si nos cœurs sont vraiment remplis d'actions de grâce envers Dieu, si nous louons vraiment Dieu dans nos cœurs, cela se transmettra à notre langue et à nos lèvres. La première chose à faire est donc d'élever notre voix dans la louange. Bon, il se peut que la nuée ne vienne pas quand vous élevez votre voix, mais nous pouvons ressentir la présence réelle de Dieu dans notre cœur. Quand nous le louons et l'adorons. Écoutez ceci, c'est le psaume 40, au verset 3. Il est écrit, « Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu, ils ont eu de la crainte et se sont confiés en l'Éternel. » N'est-ce pas intéressant? Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu, beaucoup l'ont vu. Ils ont eu de la crainte et se sont confiés en l'Éternel. Cela ne signifie pas seulement qu'ils ont vu vos lèvres bouger. Il semble qu'il aurait fallu dire, beaucoup l'entendront et ils craindront. Ils auront une crainte respectueuse et ils se confieront en Dieu. Mais il est dit que lorsque Dieu mettra ce nouveau chant dans ma bouche, quand j'élèverai ma voix vers lui dans la louange, la louange à notre Dieu, beaucoup vont le voir. Le mot hébreu pour « voir » signifie littéralement « percevoir », « reconnaître Dieu ». J'avais un ami, c'était un ami très cher, et je l'ai convaincu de venir à l'église avec moi. Après avoir été sauvé, j'ai commencé à fréquenter une petite église pentecôtiste. Et je l'ai convaincu de venir à l'église avec moi. Il était très sceptique à propos de tout cela et de tout ce qui m'était arrivé. Et pour dire vrai, il n'était pas très chaud. Mais il a accepté de venir à l'église avec moi. Je l'ai conduit à l'avant de l'église, à son grand regret, je pense, et au deuxième rang. Il y avait des bancs, nous nous sommes installés au milieu du deuxième banc, d'autres personnes ont pris place. Et nous avons célébré le culte dans cette petite église pentecôtiste. Pendant que les gens élevaient leurs voix et chantaient, la seule façon dont je peux le décrire, c'est qu'une impression tangible de la présence de Dieu s'est répandue dans le bâtiment. J'ai commencé à pleurer. On ressentait soudain cette atmosphère divine. Au milieu de l'adoration et des larmes qui coulaient sur mon visage, j'ai pensé à mon ami. Je l'ai observé. Et il me fixait avec une expression de pure terreur sur son visage. Son regard disait « Il se passe quelque chose de très réel ici, mais je ne suis pas prêt à y faire face. » Il a littéralement joué des pieds et des mains pour enjamber les personnes à côté de lui jusqu'au bout du rang. Une fois là, il s'est précipité le long de l'allée centrale et a quitté l'église en courant. La louange à Dieu, qui était sur nos lèvres, il l'a vue. Il a perçu Dieu, il a senti qu'il y avait là une réalité. Encore une fois, il n'était pas prêt à y faire face. Je me souviens d'un dimanche matin, ici, à l'église Cottonwood. Nous avons eu un moment de louange particulièrement intense. On a donné le message. Il se trouve que je prêchais ce dimanche-là. Ensuite, je pense que nous avons terminé le culte en adorant et en remerciant Dieu. Je me suis levé, les gens sont partis, ils sont sortis, et moi je suis resté saluer les gens à la fin du culte. Je suis debout à l'avant, je prie avec telle personne, je parle à telle autre, et j'en salue une troisième. Et voilà une jeune femme qui devait avoir une vingtaine d'années, accompagnée d'un jeune homme, un grand gars. Il devait avoir un peu plus de 20 ans. Il sanglote. À ma connaissance, c'était la première fois qu'il venait dans une église, et pour sûr la première fois à Cottonwood. Il pleure et pleure. Il me regarde et dit « Que se passe-t-il ? » J'ai posé une main sur lui et j'ai parlé avec lui. J'ai dit « Écoute ce que tu sens. C'est la présence de Dieu touchant ton cœur. Jésus veut entrer dans ta vie. Il est mort pour tes péchés. Veux-tu accepter Christ ?» Il a répondu « Oui, je l'ai conduit au Seigneur là, à genoux. » Mais c'était pendant que nous adorions Dieu, vous savez. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu, ils ont eu de la crainte et se sont confiés en l'Éternel. Nous devons élever nos voix pour louer Dieu. Le psaume 22:4 dit littéralement que Dieu siège sur son trône au milieu des louanges d'Israël. Le terme « louange » signifie « chanter des louanges » en hébreu. Dieu siège, c'est-à-dire que son trône, son autorité, sa présence descendent au milieu des chants de louanges de son peuple. L'ancienne version d'Arbi dit « Tu es saint, toi qui habites au milieu des louanges d'Israël ». Dieu habite au milieu des louanges de son peuple. Sa présence vient, et quand sa présence vient, ce qui est mauvais s'en va. Je vais le répéter. Quand la présence de Dieu vient, ce qui est mauvais s'en va. Sous l'ancienne alliance, quand Ophni et Phiné, les deux prêtres de l'Éternel qui étaient corrompus devant l'Éternel, ont décidé d'amener l'Arche de l'Alliance dans la bataille contre les Philistins, vous pouvez lire l'histoire, l'Arche de l'Alliance a été capturée. Ophni et Phiné ont été tués. Quand Élie, le prêtre, leur père, a appris la nouvelle, il est tombé à la renverse. C'était un homme très pesant, il s'est brisé la nuque et est mort. Une bien triste histoire de famille. Mais les Philistins se sont emparés de l'Arche de l'Alliance de Dieu. Sous l'Ancienne Alliance, l'Arche était essentiellement une boîte recouverte d'or. Elle était surmontée de deux chérubins en or battu. Sur le dessus se trouvait ce que l'on appelait le propitiatoire. Littéralement, la gloire, la Shekinah de Dieu, la présence de Dieu venait demeurer au-dessus du propitiatoire de l'Arche de l'Alliance. Elle était conservée dans le Saint des Saints, où le prêtre n'avait le droit d'entrer qu'une fois par an. Pour offrir des sacrifices pour ses propres péchés et pour ceux du peuple, personne d'autre ne pouvait y entrer. Quoi qu'il en soit, ces gars ont eu la brillante idée de l'emmener au combat. Leur cœur n'était pas droit devant Dieu, et celui du peuple non plus à l'époque. Les Philistins s'emparent donc de l'arche. Ils placent l'arche de l'Alliance, qui représente la présence de Dieu, dans le temple de Dagon, la divinité qu'ils adorent. Or, le dieu philistin Dagon était moitié poisson, moitié homme. Ils arrivèrent le matin et leur idole, leur grande statue de Dagon, était tombée sur sa face devant l'Arche de l'Alliance. Ils se dirent, comment est-ce arrivé? Nous n'avons pas ressenti de tremblement de terre la nuit dernière, comment est-elle tombée? C'est bizarre. Alors ils prennent leur treuil, leurs cordes et ils remettent l'idole en place. Le lendemain matin, ils arrivent et Dagon est de nouveau tombé devant l'Arche de l'Alliance. Mais cette fois, il s'est brisé au niveau du torse et les mains sont cassées. Cette divinité païenne était le symbole des pouvoirs démoniaques. Il y avait des esprits démoniaques derrière l'idole qu'ils adoraient. Les Écritures en parlent. Mais, mes amis, quand la présence de Dieu se manifeste, les puissances démoniaques tombent et sont brisées. Elles n'ont plus de mains, elles ne peuvent plus atteindre et affliger les gens. Elles n'ont plus de pouvoir, elles sont détruites, elles sont tranchées quand la présence de Dieu se manifeste. Quand sa présence vient, ce qui est mauvais s'en va. La dépression s'en va quand la présence de Dieu vient. La peur s'en va quand la présence de Dieu vient. Le brisement, le désespoir et la maladie disparaissent en présence de Dieu. En sa présence se trouve la lumière, la joie, la paix, le réconfort, la guérison et la plénitude. Par-dessus tout, je suis si reconnaissant de ce que lorsque nous adorons Dieu, nous ressentons la présence tangible du Seigneur. Mais surtout, la vérité est qu'il est tout simplement digne d'être loué. Même s'il n'y avait pas de bénéfice tangible pour nous, si ce qui est mauvais ne disparaissait pas quand vient la bonne présence de Dieu, si je ne l'adorais que parce qu'il en est digne, ce serait suffisant. Il faut adorer Dieu. Il veut que vous éleviez votre voix. Certains d'entre vous, qui m'écoutez en ce moment, vous êtes accablés par le chagrin. Vous êtes peut-être accablé par la dépression. Il y a peut-être des choses très pénibles qui se passent dans votre vie. Je veux vous encourager à lever les mains, à élever la voix et à adorer le Seigneur. Que l'atmosphère soit remplie des louanges de Dieu, cela chassera tout ce qui est mauvais dans cette atmosphère. Vous avez été créés pour adorer Dieu. Nous sommes appelés à louer Dieu. En plus de tout cela, le chant est un moyen de rester rempli de l'Esprit, et c'est un moyen d'édifier nos âmes. Je le répète, le chant est un moyen de rester rempli de l'Esprit Saint, et c'est un moyen d'édifier nos âmes. Laissez-moi vous lire Éphésiens 5, 18 et les versets suivants. Éphésiens 5, 18 dit « Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Comment faire cela? Il continue et nous le dit. « Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Remerciez constamment Dieu le Père pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous vous dites les uns aux autres des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, vous restez remplis de l'Esprit. Écoutez encore ce passage du livre des Colossiens, Colossiens 3:16, « Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Pensez-y que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Comment ? Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. En fait, cela me dit que les chants que nous chantons doivent être imprégnés de la parole de Dieu. Nous pouvons chanter les Écritures, on peut même prendre le livre des psaumes et le chanter à Dieu littéralement, tel qu'il est. Mais notre célébration devrait au moins être basée sur la parole de Dieu. Et je ne veux pas me montrer critique, mais je pense que cela vaut la peine d'y réfléchir. Certains des cantiques chantés dans les églises de nos jours sont loin d'être scripturaires. Il s'agit plutôt de... À mon avis, vous ne pouvez pas dire si vous chantez pour le Seigneur ou si vous chantez pour votre petit ami. Vous voyez, j'ai besoin de toi comme le rivage a besoin de la mer. Et une goutte de ton amour me remplit. D'accord, je comprends. Parfois, l'Écriture utilise un langage romantique pour parler de notre relation avec Dieu. Mais parfois, c'est tellement vague et tellement sentimental qu'il n'y a que très peu de Bible. Nos âmes devraient être édifiées quand nous chantons pour le Seigneur. Notre louange devrait être entièrement scripturaire. Si elle n'est pas l'Écriture elle-même, elle doit être fondée sur l'Écriture. Elle devrait être en accord avec les Écritures. Je pense que cela ferait du bien à plusieurs d'entre nous d'examiner dans la prière certains des cantiques que nous chantons et certaines des choses que nous prenons pour de l'adoration. C'est intéressant. Si nous voulons que la parole de Dieu habite en nous richement, il est dit que la parole habite en vous dans toute sa richesse quand vous chantez. Si nous voulons qu'elle habite en nous abondamment, nous devons chanter la parole. Cela permet à certaines choses de venir demeurer en nous. C'est drôle, cela s'est produit il y a quelques années. Ma femme et moi étions en voiture, et c'est ma voiture, donc c'est ma station de radio. J'avais une chaîne de radio rétro qui diffusait de vieux morceaux de rock'n'roll. Je savourais la musique, ce n'était pas un temps de louange dans la voiture à ce moment-là. Et une vieille chanson que je n'avais pas entendue depuis 40 ans sans entendre cette vieille chanson de rock'n'roll, en bon chrétien que je suis, je me suis penché et j'ai augmenté le volume. Vous savez, Janet m'a regardé et j'ai chanté chaque mot de la chanson. Je ne l'avais pas entendu depuis 40 ans, mais ses paroles étaient toujours en moi. Quand Moïse était sur le point de mourir, Dieu lui a donné un chant à enseigner à la nation d'Israël. Ce chant devait servir de rappel historique de tout ce que Dieu avait fait pour eux, mais aussi d'avertissement et de témoignage de ce qui leur arriverait s'ils abandonnaient Dieu. Quand j'y pense, Moïse est sur le point de mourir, et Dieu lui donne un cantique. Je veux que tu enseignes ce chant à la nation d'Israël. Enseigne ce cantique à mon peuple pour lui rappeler tout ce que j'ai fait et ce que je vais continuer à faire et pour l'avertir, pour témoigner contre lui de ce qui lui arrivera s'il m'abandonne. C'est l'un des événements les plus importants de leur histoire. Finalement, après 40 ans d'errance dans le désert et de marche autour du mont Sinaï, ils traversent enfin le Jourdain pour entrer dans la terre promise. Et Dieu leur dit, « Vous avez besoin d'un cantique. » Pensez-y. Mes amis, Dieu veut que nous élevions nos voix pour chanter. Le second domaine dans lequel il veut que nous élevions notre voix est la prière. Il veut que nous élevions notre voix dans la prière. J'aimerais vous lire un passage d'Acte 4. Je vais commencer au verset 17. Acte 4, 17. Pierre et Jean se tiennent devant le Sanhédrin qui compte 70 membres. Le grand prêtre, le père du grand prêtre et la famille du grand prêtre sont là. C'est une foule très intimidante. Ce sont les personnes les plus riches d'Israël. Ce sont les personnes les plus influentes, naturellement parlant, en Israël. Ils ont été placés en détention et doivent maintenant se présenter devant le conseil juif. et expliquer pourquoi ou comment la guérison de l'homme, le boiteux de la belle porte du temple qui n'avait jamais marché, s'est produite miraculeusement en public. Le Sanhédrin n'est pas content. Et Pierre et Jean se rendent compte qu'il ne s'agit pas là d'un groupe de personnes sans importance et sans influence. Ce sont les mêmes qui ont littéralement incité le gouverneur romain à faire crucifier Jésus. Ils se rendent bien compte qu'ils sont dans le pétrin. Il est dit ici qu'ils voulaient savoir, qu'ils voulaient qu'ils disent par quel nom ou par quelle puissance cet homme avait été guéri. Pierre dit sans honte, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu a ressuscité, que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Au verset 17, voici ce que dit le Sanhédrin. Mais afin que cela ne se propage pas davantage parmi le peuple, ils parlent entre eux, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Alors ils les appelèrent et leur interdirent absolument de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, est-il juste, devant Dieu, de vous écouter, vous, plutôt que Dieu? Jugez-en vous-même. Quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons vu et entendu. Les chefs du peuple juif leur firent de nouvelles menaces. Ils les ont menacés, leur ont donné des ordres et à présent ils les menacent à nouveau. Encore une fois, il ne s'agit pas de menaces en l'air, ce sont les hommes qui ont fait exécuter Jésus. Les chefs du peuple leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent. À cause du peuple, ils ne trouvaient pas le moyen de les punir, parce que tous attribuaient à Dieu la gloire de ce qui était arrivé. En effet, l'homme guéri miraculeusement était âgé de plus de 40 ans. Verset 23. Une fois relâchés, Pierre et Jean allèrent trouver les leurs et racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les anciens leur avaient dit. Verset 24. Après les avoir écoutés, ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu en disant « Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Alors ils se sont mis à citer l'Écriture dans leurs prières. Mais ici, ils vont vers leurs propres compagnons et la première chose qu'ils font quand ils sont menacés, c'est élever leur voix vers Dieu dans la prière. Il est si important que nous le fassions, et ils continuent à prier. Ils disent au verset 29 à 31, « Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. En fait, ils n'ont pas prié en disant, par exemple, « Dieu, s'il te plaît, sauve-nous de cette persécution, Seigneur, arrête-les et empêche ce qu'ils essaient de faire. » Non, ils n'ont pas prié pour que la persécution cesse. Ils ont prié « Dieu fait encore ce qui a amené la persécution sur nous en premier lieu. » Ils nous persécutent parce que cet homme a été guéri. Dieu, fais-le encore. Ils nous persécutent parce que nous prêchons le nom de Jésus. Dieu, donne-nous du courage pour que nous puissions proclamer le nom du Christ avec encore plus d'audace. Guéris plus de gens, étends tes mains pour guérir. Et on voit au verset et chapitre suivant que c'est exactement ce que Dieu a fait. Ils ont tout de suite proclamé la parole avec hardiesse, des milliers de personnes se sont converties à Christ. Les guérisons se sont multipliées, en fait un déluge de guérisons s'est produit en réponse à cette prière. Quand ils étaient menacés, ils élevaient leur voix et priaient. Quand vous vous sentez menacé, vous devez prier. Il ne faut pas se plaindre, vous devez prier. Si vous êtes menacé, élevez votre voix dans la prière. Si vous êtes menacé par quoi que ce soit, si vous êtes menacé par la maladie, si vous êtes menacé par la faillite, si vous êtes menacé par quelqu'un au travail qui vous a fait du tort, élevez votre voix vers Dieu et priez. Dieu envoie des réponses à la prière, il veut que nous élevions notre voix dans le chant et l'adoration, il veut que nous élevions notre voix dans la prière. Ensuite, très rapidement, le troisième domaine dans lequel il veut que nous élevions notre voix est celui de l'évangélisation. Il veut que nous partagions avec les autres. Romains 10, 13, « En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce ? Et comment l'annoncer si personne n'est envoyé ? Comme il est écrit, « Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Comment peuvent-ils faire appel à quelqu'un dont ils n'ont pas entendu parler ? Comment peuvent-ils en entendre parler si personne ne prêche, si personne n'élève sa voix avec le message de l'Évangile, la bonne nouvelle? Quand il a été libéré des démons, L'homme de Gadara a voulu partir avec Jésus. Jésus lui a dit non, va dans ta maison, vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu pitié de toi. Non, va le dire à quelqu'un. Vous devez le dire aux gens de chez vous. Jésus a dit, on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau. Nous devons d'abord partager avec les membres de notre famille. Rentrez chez vous, dans votre famille et chez vos amis et dites-leur. Élevez votre voix et racontez à quelqu'un ce que Jésus a fait pour vous et ce qu'il représente pour vous. S'il vous a donné la paix, dites-le à quelqu'un. S'il vous a délivré des griffes du péché, dites-le à quelqu'un. Le Seigneur est bon, mais comment croire en quelqu'un dont on n'a pas entendu parler? Comment peuvent-ils entendre si personne n'élève la voix pour leur annoncer la bonne nouvelle? Eh bien, vous savez quoi? Mon temps est écoulé. Je terminerai par ceci. Jésus-Christ vous aime. Il est le Fils de Dieu, il est mort à votre place pour payer le prix de vos péchés, afin que la colère de Dieu ne s'abatte pas sur vous, mais qu'elle s'abatte sur lui, qui est votre substitut. Les exigences de la justice éternelle de Dieu ont été satisfaites. Jésus est ressuscité des morts. Si vous l'invoquez, lui donnez votre vie et faites de lui le Seigneur de votre vie, Dieu vous sauvera de la damnation éternelle, il vous fera entrer dans sa famille et le ciel sera votre demeure future. Que Dieu vous bénisse.
Avez-vous des questions sur l'émission ou est-ce que quelque chose vous préoccupe pour lequel nous pouvons prier? Alors écrivez-nous, notre équipe apprécierait avoir de vos nouvelles.
Nous connaissons tous des moments difficiles dans la vie. Les tempêtes de la vie peuvent toucher tout le monde. Mais peu importe ce que vous traversez, Dieu a des réponses pour vous. Il connaît un chemin que vous pouvez suivre. J'en ai moi-même fait l'expérience. Dieu m'a libéré du désespoir le plus profond et de la toxicomanie. Je suis convaincu qu'il peut aussi vous aider. Je vous raconte mon histoire dans le mini-livre « Il y a toujours de l'espoir ».
Téléchargez gratuitement le livre au format PDF. Il vous suffit de vous rendre sur belez-conley.fr/espoir pour découvrir comment Dieu vous offre à vous aussi un nouvel espoir.